moins, mais c'est un aboutissement. Ça a été tellement long,
étape,
cette histoire. Incroyable. Il a réussi, notre petit avocat.
Tu seras avec nous demain soir. Allez, bonne nuit à tous, à demain.
RMC, l'after foot. RMC, les grandes gueules.
Bonjour, c'est Alain Marchal. Demain, entre 9h et midi, vous serez avec les juges, avec les grandes gueules. L'ancien policier du Raid, Bruno Pomard, l'éducateur de Saint-Denis, Étienne Yavig, et Barbara.
Bonjour. Peut-être une nuit.
Non, pas cette Barbara. Notre Barbara.
Je ne comprends même pas les végétariens de pacotille. Je suis végétarienne, je ne mange pas de viande et en plus je ne bois pas d'alcool parce que ça me fait mal au ventre.
Et ça, c'est notre Barbara, nous, notre Barbara Lefebvre, la professeure d'histoire géographie.
RMC les grandes gueules, tous les jours, 9h midi. Vous aimez le poker? Vous êtes fan de l'afterfoot? Chaque soir à 22h45, rejoignez le tournoi Afterfoot sur Winamax.fr. Gilbert Bribois et Daniel Riolo vous y attendent pour rythmer vos parties. Winamax, le plus important, c'est de gagner. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Sur RMC, la nuit, RMC, c'est le meilleur de la journée. Rediff.
C'était ce matin sur RMC.
Arnaud, mon invité ce matin dans le face-à-face, c'est Éric Zemmour, le président du parti Reconquête.
Oui, ah, enfin. Ça va nous faire du bien, un invité feel good. Que la météo est pas dingue, les infos sont déprimantes, mais heureusement, Éric la déconne va nous redonner un peu le sourire. Hein. Rigolo. Ah, voilà, tant de légèreté. Sa liste n'arrive pas à séduire les électeurs. Et en même temps, là, le discours vire au burlesque. L'autre jour, il y a Jean Messia, qui est sur la liste Reconquête, qui a carrément comparé l'immigration à, je cite, « importer des millions de chameliers polygames du 8e siècle » avec, je cite toujours Jean Messia, « Mokhtar Ben Koutskous ». Donc, évidemment, là, à côté de ça, Jordan Bardella, on dirait le fils de Yannick Noah et Christiane Taubira, quoi. Ça vire au tragique. Vraiment, c'est ridicule. On dirait une parodie de Jean-Marie Le Pen dans Le Bébé de Chaud. Le chamelier, n'est-ce pas? Appelez-moi Dieu, tu dis n'importe quoi. Le couscous, n'est-ce pas? Écoutez, ta gueule, c'est n'importe quoi. Alors, on se souvient tous de l'attaque contre Éric Zemmour la semaine dernière. Enfin, l'attaque, l'attentat. Une femme lui a jeté un œuf. Et lui et Sarah Knafo avaient déclaré qu'ils ne voulaient pas vivre dans un pays où on ne peut se défendre que quand on est mort. Éric Zemmour peut mourir si on lui jette un œuf. Donc, Apolline, si jamais il devient agressif pendant l'interview, je vous ai amené une boîte de 6, elle est en régie.
D'accord.
Et si jamais il est trop agité, vous la secouez un peu devant lui, comme ça, ça le calme.
Alors, la dernière sortie politique d'Éric Zemmour, vous savez ce que c'était?
Non.
C'était il y a deux jours, il était à la foire à la fraise de Sainte-Bazeille. Et Éric Zemmour a côtoyé, d'après la presse, le cortège coloré et festif d'une immense tarte à la fraise. Et il a rencontré, c'est véridique, la confrérie de la tarte géante. Il est prévoyant, hein. Comme il va s'en manger une aux européennes de tarte géante, eh ben, il a voulu avoir l'avis des spécialistes.
RMC, Apolline Matin.
C'est tous les jours de manche.
Et l'actualité est un peu lourde aujourd'hui, on peut le dire, mais Arnaud...
On va bien rigoler. D'ailleurs, l'actualité est tellement lourde que j'ai failli passer à côté du choc politique de la semaine. Ah. Elisabeth Borne envisagerait de se présenter à la présidentielle en 2027. J'ai vu ça dans la presse.
Oui.
Authentique. Votre meuf va y aller, Manu. Donc, vous souvenez d'Elisabeth Borne, hein, la killeuse d'acquis sociaux avec sa clope électronique, la papotieuse. Elisabeth Borne, c'était le Vatican. Si elle fait une fumée noire... Un acquis social est mort. Si elle fait une fumée blanche, un nouvel acquis social est désigné pour mourir dans 2 ans. Donc elle envisage de se présenter. J'espère qu'elle va l'annoncer à la télé. Française, français, j'ai décidé d'être candidate à la présidence de la République. J'actionne donc l'article 49.3. Allez hop, je suis élu. Ça va aller très vite. C'est quand même fou, quoi. Il suffit que les sondages de Raphaël Glucksmann soient vaguement bons pour que n'importe qui se voie un destin électoral. Alors, à propos de Raphaël Glucksmann, la tête de liste socialiste aux européennes a regretté d'être exclue du débat télévisé qui aura lieu le 23 mai entre Gabriel Attal et Jordan Bardella. Mais bon, faut comprendre les organisateurs. Ça fait quand même vachement longtemps que quelqu'un s'est pas dit « Oh !»
faut qu'on pense à inviter le candidat socialiste au débat. Ça n'arrive plus. Le PS, c'est un produit des années 90. C'est comme les boys band, c'est comme les peluches Kiki, c'est comme les trolls en plastique qu'on mettait sur les crayons. Vous vous souvenez de tout ces trucs-là ?
Bien sûr.
Et puis Glucksmann, c'est un vieux, il a 44 ans. On va pas le mettre avec les jeunes, Attal et Bardella. Ça va être gênant, c'est un peu comme les darons qui débarquent à une soirée, quoi. Hey, hey, yo, wesh, ça va les Jones? Ça parle d'Europe, les fratés. Ouais, moi aussi, je suis comme vous. J'aime l'Europe et j'aime le rap aussi. Yo, yo, l'Union Européenne. Yo, yo, c'est une solution pérenne, les frères. Signe de Jules Ferry, Amdoula. Wesh les jeunes. Wesh.
Non maman, non,
non maman.
Pas le moment. Le gouvernement Arnaud a testé un système d'alerte sur nos téléphones.
Oui, vous l'avez reçu. Mmh. Moi je l'ai eu. L'alerte qui fait un bruit pas possible. Bip bip. Avec un mais c'est affreux. Avec un message du gouvernement qui dit non, en fait c'est rien, c'est un test. Désolé, mais ça a fait flipper tous les gens qui l'ont reçu. Encore un truc pour faire des crises cardiaques à des retraités. C'est toujours ça, de pension en moins inversée. J'espère qu'ils vont pas l'activer en cas d'attente à ce machin. Imaginez, en cas d'attaque terroriste, t'es caché dans les toilettes, tu te forces à pas faire de bruit et bip. C'est le gouvernement qui signale directement aux terroristes où t'es caché. Il n'y avait que nous pour faire ça. C'est du pur Jean Castex. Les étrangers, ça a dû les surprendre. Ils ont entendu l'alarme. What the fuck is that? It means there is an attentat. Oh, il y a eu un attentat, c'est pour ça. L'état des rues dans Paris, des terroristes ont tout fait exploser. Non, c'est normal. Ça, non, c'est Anne Hidalgo qui essaye d'embellir la capitale.
Arnaud, le groupe pharmaceutique Sanofi a annoncé un accord de licence avec l'américain Novavax.
Oui.
Pour la commercialisation en commun d'un vaccin contre le Covid-19.
Enfin, Cocorico, ça y est, on l'a. J'imagine le pauvre chercheur était enfermé dans son labo depuis 5 ans. Les autres lui disaient, Gérard, tu veux venir déjeuner? Non les gars, je peux pas, je dois bosser sur ce putain de vaccin, il y a une pandémie. Alors justement, il faut qu'on te dise au sujet de la pandémie, non, arrête de me déconcentrer, j'ai du travail. Alors bon, on l'a laissé faire et enfin, il a sorti son truc, mais peut-être un peu tard. C'est comme si France Télé ouvrait 400 vidéoclubs dans tout le pays pour concurrencer Netflix. C'est comme si France Télécom lançait un Minitel à écran plat pour concurrencer Internet. C'est comme si Charles dégainait un préservatif échographie. Non, c'est pas idiot, si vous voulez. Mais il y a un décalage.
Il a dit non.
Il y a un décalage.
Arnaud, le film d'Artus, un petit truc en plus, a atteint les 2 millions d'entrées en moins de 2 semaines.
Ouais, ça c'est la musique du film. Donc un film sur le handicap avec des comédiens réellement atteints de handicap, c'est mieux que de prendre des comédiens qui jouent des handicapés mentaux. Parce que là, ça ferait polémique. Vous imaginez Gilles Lelouch et Pierre Ninet jouer des trisomiques, par exemple. Ça ferait scandale. Et c'est vrai que les films sur les personnes handicapées, bah, ça cartonne toujours en France. On a eu Intouchable, La Famille Bélier, Les Tuches. Et la société aime bien ça.
Non.
La société aime bien, ça soulage les consciences vu qu'on fait rien pour eux. Donc une fois de temps en temps, on peut bien payer 15 balles pour aller les voir au ciné.
C'est pas faux.
Mais Artus a dû pousser un coup de gueule car les marques de luxe ont refusé d'habiller ces acteurs handicapés pour la montée des marches. Alors aujourd'hui, il y a une marque à accepter, mais au départ, elles avaient toutes dit non. Et c'est scandaleux. D'abord parce que ça les dérange pas d'habitude, Gucci et Chanel, d'habiller des personnes souffrant de retard intellectuel. Hein. Tous les anges de la télé-réalité sont en marque de luxe. Et après, il y a des personnes handicapées qui sont plus faciles à habiller que d'autres, c'est vrai. Philippe Croizon, par exemple, c'est simple. Non, mais tu peux lui faire une belle montée des marches très facilement. Tu le mets dans un tote bag, hop, sur l'épaule de Gisèle Bündchen, et un parfum de glamour et d'élégance flotte instantanément sur le tapis rouge. On adore le style. Et là, à demain.
Arnaud Demanche est chaque matin à 7h20 et 8h20
dans Apolline Matin sur RMC.
Tout de suite, réécoutez « C'est tous les jours de manche » en podcast.
Sur toutes vos plateformes, sur rmc.fr et sur l'appli RMC. Tous les matins, dès 5h, RMC vous réveille en douceur ou accompagne la fin de votre nuit.
C'est Charles Matin.
De l'économie, du sport, du rire et bien sûr, toute l'actualité.
À vos réveils, RMC Charles Matin, du lundi au vendredi, de 5h à 6h30.
Tous les jours dès 6h, Charles Matin est aussi à la télé sur RMC Story, canal 23 de la TNT.
RMC, pour réagir en direct, 32-16, touche 1.
Touche 1.
RMC présente la 15e édition des trophées PME RMC.
Le premier concours des PME de France.
Vous dirigez une PME? Inscrivez-la dès maintenant sur trophées-pme-rmc.com.
Gagnez 100 000 euros d'espace publicitaire sur RMC. Les trophées PME RMC.
Ensemble, bougeons-nous.
Ce week-end, à l'Hippodrome d'Auteuil, c'est le Grand Steeplechase de Paris avec RMC. Assistez à la plus spectaculaire des courses d'obstacles de l'année. Prenez vite vos places sur francegallo-live.com. Le Grand Steeplechase de Paris, ce week-end avec RMC. À chaque obstacle, c'est votre cœur qui bondira.
RMC au 32-16,
45 centimes la minute.
Ou par SMS au 732-16,
75 centimes par envoi, plus prix du SMS.
RMC.
Les meilleurs moments de la journée, toutes les nuits sur RMC. Rediff.
RMC, les grandes gueules.
Et à ce propos, on va écouter justement le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Il était chez nos confrères d'RTL ce matin.
Le narco-banditisme tue énormément. Et ce qui s'est passé au péage de l'Eure, c'est désormais... J'espère pour que tout le monde le comprenne. J'ai parlé moi-même d'ensauvagement quand j'étais ministre de l'Intérieur. J'étais très critiqué pour ça. La violence désinhibée pour des personnes qui prennent tous les risques. Ils ne sont pas très âgés souvent. Ils ne sont parfois même pas dans le trafic de drogue parce qu'ils ont une commande d'un trafiquant de drogue pour libérer un voyou. Et ben, cette violence désinhibée où on tire la Kalachnikov sur des pères de famille, elle pourrait comprendre qu'elle a une source, c'est la consommation de drogue.
Voilà, l'ensauvagement, la consommation de drogue, mais parlons de la méthode, effectivement, d'abord, qui, quand même, hier, nous a tous pétrifiés de
terreur. C'est un véritable guet-apens qui a été tendu à ce fourgon pénitentiaire et aux hommes qui étaient à bord. Donc, on sait aujourd'hui qu'il y a un véhicule Peugeot volé quelques jours auparavant qui attendait le fourgon, garé sur le bas-côté du péage d'Incarville sur l'autoroute A154. C'est sur la commune de Val-de-Reuil, dans l'Eure. Quand le fourgon passe la barrière de péage, eh bien la voiture, le véhicule percute frontalement donc le fourgon. Des hommes munis d'armes longues, et on les voit sur les images de vidéosurveillance, habillés en noir, descendent du véhicule. Ils sont rejoints par d'autres hommes qui suivaient vraisemblablement le fourgon, qui était donc dans un autre véhicule. Il y avait au moins deux véhicules utilisés, c'est ce que disait hier la procureure. Ils ouvrent le feu, ils abattent sans sommation deux agents pénitentiaires, ils les mettent pas en joue. Ils tirent tout de suite, donc ils abattent deux agents pénitentiaires. Ils blessent trois autres agents. Ils arrivent à extraire Mohamed Amra. On le voit sur les images, avec ses baskets blanches. L'opération dure moins de 2 minutes. Ensuite, ils sont repartis à bord de deux véhicules qui ont été retrouvés brûlés. L'un à Ouetteville et l'autre à Gauville, la campagne, à une trentaine de kilomètres au sud du péage, dans la banlieue d'Évreux. Et depuis, on ne sait pas où sont passés à la fois Mohamed Amra et ses complices. Donc, il y a une traque sans précédent. Plus de 450 policiers et gendarmes mobilisés pour les retrouver. Mais pour le moment, on ne les a pas retrouvés. Les spécialistes disent quand même qu'une cavale, c'est compliqué. Il faut de l'argent, il faut des complices. C'est difficile de passer inaperçu. D'autant plus qu'ils sont plusieurs. Donc j'imagine qu'on va essayer de retrouver d'ailleurs le profil de ceux qui ont participé à la libération de Mohamed Amra. Et puis on a aussi ce matin quand même des nouvelles des victimes. Donc rappelons-le, il y a deux morts. L'un d'entre eux allait être papa. Les blessés, ce matin, le secrétaire général FO pénitentiaire expliquait à Pauline de Malherbe qu'un des collègues avait été opéré. Le deuxième est sorti du bloc opératoire. Son pronostic vital n'est plus engagé. C'est une bonne nouvelle. Et pour le troisième collègue, voilà ce qu'il disait, sa situation est stabilisée, mais prudence.
Voilà, déjà cette attaque, le choc de l'attaque, la sauvagerie, le commando, la méthode, l'arme lourde, on tue, on ne laisse place à personne. Bruno Poncet, quand tu as vu ces images, Bruno?
Moi, les armes utilisées, je les connais malheureusement, mais c'est même pas ça. C'est que là, tu te rends compte que...
Pourquoi tu les connais? Parce que c'est des armes qui ont été utilisées au Bataclan?
Moi, ouais, je pense que c'est des Kalachnikov. De toute façon, une Kalachnikov, comment tu trouves ça pour 200, 300 balles dans une cité? Donc, je pense que malheureusement...
Pas forcément, hein, d'après les spécialistes, pas forcément.
C'est des armes de guerre, en tout cas, ça c'est sûr.
Armes de guerre, c'est sûr, mais
c'est pas forcément les Kalachnikov.
Ouais, mais bon, tu vois, quand tu vois la longueur de l'arme, ça ressemble un peu à ça.
C'est surtout le fait de tirer tout de suite, de pas mettre en joue.
D'arroser, ouais. D'arroser comme ça. Mais ce qui est dingue, c'est que tu te retrouves avec des scènes que tu vois habituellement dans des films et que maintenant, pour sortir quelqu'un de prison, tu fais ça. Et tu tues. Ouais, hein. Parce qu'avant, enfin, tu peux se faire sortir de prison et sans tuer, je pense, j'imagine. Hein. que là, ils avaient juste.
Tu pouvais mettre en joue en disant, les gars, couchez-vous. C'est pas la meilleure raison de risquer votre vie de mourir pour 2000 balles par mois.
Et là, maintenant, il n'y a plus de limite, c'est-à-dire que tu tires, mais tu vois bien, enfin, on a vu toute l'année,
parce
on a
là,
parlé.
On ne sait rien sur le commandement lui-même, d'ailleurs.
On ne sait pas si c'est des gens qui connaissent précisément, d'ailleurs, Mohamed Amra, ils ont peut-être été embauchés pour cette opération.
Et on sait pas tu l'as vu, dernièrement, je crois que c'était à Marseille où tu avais des gamins de 15-16 ans qui étaient sur un gage. En fait, depuis le début, moi, ça fait 2 ans que je suis chez vous, quasiment. Depuis 2 ans, on commente des faits divers comme ça, où on tire des fois dans des endroits, dans des points de deal, et on tue des gamins de 7 ans. Voilà, c'est comme ça. Aujourd'hui, on n'arrivera pas à régler ces problèmes-là, juste en parlant à la télé, en expliquant que oui, c'est pas bien, et que le trafic de drogue, c'est un problème. Bah, tant que tu laisseras des quartiers abandonnés de tout service public et de toute présence policière, bah après les mecs, ils se croiront tout permis jusqu'au bout. Hein.
Alors il y a aussi Mohamed Amra, le profil. Ouais. Hein. Finalement, c'est un profil assez classique d'un homme qui s'enfonce dans la délinquance. Il commence par des vols et puis là, il allait être poursuivi pour des tentatives d'homicide. Donc il allait de plus en plus loin dans la délinquance. Il avait déjà un casier judiciaire bien rempli. Il venait d'être jugé dans une autre affaire. D'ailleurs, il revenait du tribunal. Donc on est aussi face à un profil malheureusement assez classique.
Joël.
Moi je suis assez en colère quand même parce que quand j'entends le gouvernement qui nous dit qu'il fait la guerre aux narcotrafiquants, je voudrais qu'on m'explique pourquoi un tel détenu avec un tel pédigré, donc effectivement il était condamné pour vol mais impliqué dans des affaires de meurtre de personnes calcinées avec une balle dans la tête, enfin des choses que on peut voir dans les films, et donc il impliqué dans un trafic entre les Antilles et Marseille. Donc on a affaire à quelqu'un qui est manifestement, entre guillemets, bien entouré. Comment ce détenu peut être transporté dans un camion de livraison Monoprix ? Moi, ce que j'ai vu là, c'est exactement le même type de camion de livraison des courses de celui qui se gare en bas de chez moi quand il me monte les courses. Est-ce qu'on peut m'expliquer pourquoi est-ce que c'est pas un fourgon blindé ? Moi, je dis que les surveillants pénitentiaires, si j'étais eux, putain, mais je me mettrais en grève, pas juste 2 jours, quoi. Mm-hmm. Tu te rends compte de travailler pour l'État, ce que c'est en France ? Là, donc, c'est eux.
L'État n'a pas protégé ses fonctionnaires.
Mais pourquoi un tel camion ? Pourquoi un tel camion ?
C'est écrit en plus.
Oui, en plus.
Non, mais complètement.
Il y a une cible parce qu'on met surveillant. Puis
tout le monde sait que c'est ça. Je t'assure que quand on me livre un iPhone, tu sais ce que fait Amazon ? Ils t'emballent le truc dans un truc complètement anonyme, de peur que ce soit repéré par des livreurs mal intentionnés, etc. Là, on te livre un détenu ultra dangereux, dans un camion écrit service pénitentiaire, qui est un camion banal, de ce qu'on peut voir de tous les jours. Enfin, explique-moi, c'est quoi la guerre aux narcotrafiquants ?
Parce qu'il n'était pas considéré comme étant ultra dangereux.
Mais la France, elle vit vraiment, je ne sais pas si on est naïf, je ne comprends pas, il y a une sorte de naïveté. C'est impossible que ce type de détenu, même s'il était condamné uniquement pour vol, soit juste un voleur. C'est quelqu'un qui est intégré dans un réseau ultra dangereux.
On avait son avocat hier sur BFM TV, même lui, il était stupéfait de ce qui s'est passé ici. Il doutait pas.
J'imagine qu'il ne se doutait pas. Donc moi, je ne comprends pas comment on lutte contre les. Comment on fait la guerre avec ce type d'armes, avec ce type de véhicule.
Mehdi, ces images très spectaculaires, on a l'impression de voir un film. Hein.
C'est ça. Moi, hier, pour moi, on est dans un monde irréel. Parce que hier, quand j'ai vu les images, je me suis dit, c'est le lancement d'une série Netflix. C'est pas possible que ça se passe à 1h de Paris, en pleine matinée. Et ce qui me choque, c'est que je ne sais pas si vous avez vu à côté les camions qui continuaient à rouler, à avancer, les voitures qui passaient, des autocars
qui filment,
remplis de gosses à l'intérieur.
C'est juste
flippant parce que ça arrivait vraiment en milieu de matinée et les gars sont sortis de la bagnole et vous voyez dans les images la détermination des mecs. Ils sont descendus, ils ont commencé à allumer immédiatement.
Ouais. Ils ont arrosé.
C'est horrible ces mecs-là, mais j'espère juste qu'on va pas me sortir quand on va les attraper, parce que j'espère de tout mon cœur qu'on va les attraper.
On pense même à autre chose d'ailleurs, au moment où on se dit on va les attraper, on va en rester là.
Voilà, on va rester là pour
non, mais faut les attraper
vivants. On va se faire taper dessus par le CSA.
Pour savoir ce qui s'est passé.
Mais j'espère juste qu'on va pas me sortir. L'ARCOM, pardon. Ouais. Mais j'espère juste qu'on va pas me sortir comme quoi il faut une demi-peine ou je sais pas quoi, ou la moitié de la peine, ou moitié de sûreté, ou pas. J'espère vraiment que ça va être perpète de chez perpète incompressible, de chez perpète incompressible, quoi. Et qu'on les oublie, qu'on jette la clé quelque part.
Déjà, il faut les retrouver.
Franchement,
surtout qu'ils sont ultra déterminés. Tu peux te dire que le moment où on va les retrouver.
Alain, je te dis une chose. Alain, je te dis une chose.
Ça peut chauffer, hein.
Je te dis une chose. La cavale, ça coûte énormément de pognon.
Oui, c'est vrai.
La cavale, ça coûte beaucoup de pognon.
Surtout vu maintenant.
Et quand t'as 4, 5 mecs, 6 mecs qui sont comme ça, en cavale, en groupe, en un, c'est pas facile du tout pour des mecs comme ça. Et honnêtement,
moi, je suis assez optimiste.
Je pense que quand t'as 400, 500 policiers derrière, plus une détermination.
C'est devenu les ennemis publics numéro 1.
Voilà,
là.
Plus une détermination politique aussi pressante du ministère de la Justice et du ministère de l'Intérieur, je donne pas cher de leur peau. Après. Adviendra que pourra.
Nous sommes avec Rodolphe, il nous appelle du Morbihan, c'est un ancien policier. Bonjour Rodolphe.
Oui, bonjour à tous.
Comment avez-vous réagi en voyant les images hier terribles de ce commando habillé en noir et qui tire à tout va, quoi, Rodolphe?
Bah, si vous voulez, moi ce que j'ai vu, c'est que j'ai vu un mode opératoire particulièrement bien préparé. Ça, c'est la première chose, parce que si vous voulez, nous, dans la police ou dans d'autres services, la gendarmerie, etc., on a l'habitude de ce genre de mode opératoire, puisque si vous voulez, le rôle de chaque individu a été préparé minutieusement. On voit bien que le premier véhicule bélier, chaque individu sort et a son rôle. On voit bien que les individus qui arrivent derrière, ils ont un placement qui est particulièrement bien préparé pour l'attaque de chaque véhicule. Donc, vous voyez, donc tout ça fait qu'on a affaire à une opération minutieusement préparée depuis quelques jours, voire quelques semaines, en fonction de ce qui avait été prévu pour la sortie de cet individu. J'entends des choses dans les médias qui me surprennent un peu. On n'a pas affaire aux gros voyous. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'un gros voyou ? Le banditisme, aujourd'hui, il a changé. Et depuis déjà au moins 20 ans, déjà, il a changé. On n'a plus affaire à des clans comme la pègre marseillaise ou corse, etc. On a affaire à des petites structures ou des moyennes structures de narcotrafiquants. Quand je vois le pédigré de l'individu, excusez-moi, comme disait Joël tout à l'heure, on a des fourgons qui sont en tôle, des fourgons de chantier, des fourgons de livraison. Et on met des gardes pénitentiaires dans des gardiens de prison qui ont des pauvres 9 mm pour escorter un individu qui a un pédigré qui est long comme le bras.
Avec 13 condamnations.
Oui, alors il y a un truc qui me surprend dans les infos
ça reste quand même honnêtement, si vous commencez à sortir avec des véhicules blindés tous les détenus qui vont au tribunal, vous savez très bien que c'est techniquement parlant impossible.
Alors, parce que maintenant que c'est fait. Attendez, Mehdi, s'il vous plaît, 30 secondes, parce qu'il y a aussi un problème. Aujourd'hui, quand j'étais dans la police, et aujourd'hui le problème perdure toujours, on avait des difficultés à savoir qui allait prendre en charge l'escorte d'un fourgon pénitentiaire.
Oui.
Un coup c'était la police, un coup c'était la gendarmerie. Après, le ministère de l'Intérieur nous a dit non, c'est plus le rôle de la police, c'est plus le rôle de la gendarmerie, c'est le rôle des gardiens de prison. Moi, vous savez ce que je pense, et ça fait des années que dans la police on le réclame, les gardes pénitentiaires, ce sont la troisième force civile en France. Il faut les intégrer au ministère de l'Intérieur pour avoir enfin une mission.
Je suis tout à fait d'accord. Honnêtement, Rodolphe, avec ce que vous dites, je suis tout à fait d'accord.
Mais le problème, messieurs.
C'est des policiers, pour moi, c'est des policiers, parce que c'est eux les premiers qui surveillent les
Rodolphe. Le souci, Mehdi, je vous coupe parce qu'en fait, c'est important que les gens prennent conscience de ce qu'ils écoutent, c'est que on a des gens qui dirigent la police, qui dirigent les prisons, qui dirigent. On a des gens qui sont très haut placés, mais qui ne prennent pas en considération ce que les gens vivent sur le terrain, les effectifs de terrain. Tout ce qu'on réclame, ce sont des choses simples, ce sont des choses faciles à mettre en place, il suffit juste d'avoir de la bonne volonté. C'est bien beau, j'entends les paroles de M. Darmanin et M. Dupond-Moretti, sans faire de politique ou de polémique. Mais ils sont complètement déconnectés de la réalité. Là, la situation elle est particulièrement grave en France sur tous les étages.
Surtout Rodolphe, j'ai entendu des propositions syndicales qui allaient plutôt qui me semblaient être de bon sens et qui, pour le coup, ne coûtaient pas très cher. Certains disaient, mais pourquoi finalement c'est pas le magistrat qui se déplace dans la prison? Pourquoi c'est forcément le détenu qui va avec des moyens? Le magistrat.
La visioconférence.
Le magistrat peut se déplacer, il y a la visioconférence et ça coûte pas cher. Et
la solution, c'est ça.
Le garde des Sceaux devra répondre aussi parce que ça, c'est les propositions qui ont été faites depuis quelques années.
Voilà, ça fait plusieurs années dans un instant. Enfin, on en parlera tout à l'heure. À 10h avec le représentant de la pénitentiaire, Johan Cava, qui sera avec tout, d'autant que les syndicats de pénitentiaires
seront reçus tout à l'heure par Éric Dupond-Moretti en début d'après-midi.
Mais je voulais simplement souligner un truc pour qu'on en discute après, mais hier, il y avait quand même cette information qui est un peu surprenante, c'est que semble-t-il, dimanche, il avait été attrapé en train de scier les barreaux de sa cellule. Comment quelqu'un... Alors, ça veut dire qu'il ne savait pas qu'il allait être libéré, parce que si moi, je sais qu'on est en train d'organiser ma fuite, mon évasion, je ne me fais pas remarquer deux jours avant. Il y a des choses quand même assez contradictoires, et donc il y a un scénario qui est possible aussi, qui est sur la table, c'est que lui-même n'était pas au courant qu'à ce moment-là, le commando allait
frapper. Rodolphe, je vous remercie d'avoir été avec nous. On va continuer la discussion. Cette attaque, Rodolphe, ça ne m'étonne pas, aujourd'hui, on a affaire à des types qui n'ont plus peur de rien, des petits commandos autour du narcotrafic qui tuent sans avoir à se soucier de l'après. Justement, cette sauvagerie, cette brutalité, continuez de venir en discuter avec nous au 32-16.
RMC, jusqu'à midi,
les grandes gueules. Tous les matins, réveillez-vous avec RMC.
À 4h30, votre premier journal. 5h, 6h30, Charles Matin.
6h30, 9h, Apolline Matin et le face-à-face à 8h30 avec un invité qui fait l'actualité. RMC, le matin.
Le réflexe info.
Si un jour vous ne captez pas RMC, pas d'inquiétude.
RMC est aussi en direct sur rmc.fr et sur l'appli RMC.
RMC Escrime. De demain à dimanche, c'est le Challenge Monal. La Coupe du Monde d'épée hommes accueille les stars mondiales de l'escrime à Saint-Maur-des-Fossés. Encouragez le champion olympique Romain Canon et ses partenaires de l'équipe de France pour la dernière épreuve sélective avant les Jeux Olympiques. Info et résa sur ffescrime.fr. Le Challenge Monal. De demain à dimanche avec RMC.
RMC Rotten sans flamme.
Salut, c'est Jérôme Rotten. Cette semaine, dans Rotten sans flamme, on fait le grand jugement de la saison du Paris Saint-Germain. Et croyez-moi, ils vont tous y passer. Ne ratez surtout pas ça, ce sera tous les soirs à 18h30 sur RMC. Et ce soir, on fait le procès de Gigio Donnarumma.
Pas le temps d'écouter la radio aujourd'hui ?
Sur RMC.
Sur RMC, vous avez toute la nuit.
Rediff. RMC.
9h midi.
Les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules en direct sur RMC, RMC Story, les grandes gueules avec aujourd'hui Bruno Poncet, cheminot et syndicaliste, Joël Dagosséry qui est avec nous, elle est coach de vie, Mehdi Guézard qui est patron de PME. Vous savez qu'aujourd'hui, tout à l'heure, à 11h20, on fait tourner la roue dans les grandes gueules, dans les GG. Et si vous voulez faire tourner la roue et gagner 20 000 euros, dès que vous entendez l'alerte, l'alarme, celle-ci, voilà. Vous n'avez qu'à envoyer roue par SMS au 732-16. Parce que si vous voulez faire tourner la roue, et je l'ai vu tout à l'heure, la roue multicache là, il y a 3 ou 4 cases à 20 000 euros, ce qui est quand même pas mal. Il y en a 3 ou 4 aussi à 10 000 euros. Ça part de 100 jusqu'à 20 000 euros. Donc croyez-moi, je me suis amusé, je l'ai fait tourner pour regarder. Oui,
et pareil, tu l'as pété.
La simulation. J'ai fait tomber deux petits trucs, là, c'est en cours de réparation.
Oui, ben là, il y a toute une équipe qui répare la roue.
On n'a jamais vu une telle logistique, paraît-il, s'affairer sur cette roue que vous découvrirez
tout à l'heure.
C'est du bois,
la roue, c'est que du bois.
Vous la faites tourner, j'espère que vous gagnerez les 20 000 euros, la roue multicache. C'est notre productrice Anaïs Sens qui va la faire tourner tout à l'heure à 11h20.
Bon, allez, tu crois qu'Anaïs, c'est une main innocente? Anaïs, ça fait longtemps qu'elle est plus innocente, à mon avis.
C'est comme ça qu'elle est surnommée ici, oui, dans l'innocence. Oui, la virginité.
Non, allez, stop.
Blondine, on l'appelle Blondine.
La pureté. Stop. Bon, on revient à notre discussion, parce que là, en revanche, on est plutôt dans le diabolique, dans la terreur avec ce qui s'est passé hier.
Non, mais moi, j'aimerais qu'on revienne sur les scénarios possibles. Parce qu'il y a le scénario comme quoi, effectivement, lui-même a organisé son évasion, a mis en place un commando. Il y a le scénario où il n'était pas au courant et que le commando l'a libéré malgré lui, puisqu'il y a cette info comme quoi, il y a deux jours, il sciait les barreaux de sa cellule. Donc, bon, bizarre. Et puis aussi, peut-être, le scénario, c'est qu'on l'enlève pour lui faire du mal. Parce qu'il est dans des histoires de règlement de compte. Hein, Mehdi Guézard, Joël Bruno, on l'a dit. Il est poursuivi dans une affaire où il aurait participé à l'assassinat d'un rival dans le trafic de drogue. Il y a quelque chose qui tourne pas rond, Mehdi.
Il y a quelque chose qui tourne pas rond dans cette histoire. Parce qu'un mec qui prépare une sortie de la sorte deux jours après ne se fait pas remarquer par les gardiens en sciant ses barreaux 48 heures avant. Enfin, il y a quelque chose qui n'est pas logique dans le déroulé de l'histoire. Et honnêtement, on a tous vu son pédigré. À l'origine, c'est un petit voyou qui vend des produits stupéfiants et il a été impliqué dans une affaire de meurtre sur Marseille. Est-ce qu'il n'a pas été kidnappé? Est-ce qu'il n'a pas été pour justement se venger? Il y a quelque chose. Il y a une énigme dans l'histoire. Et c'est pas aussi, pour moi, c'est beaucoup plus compliqué, complexe que ça puisse paraître.
Non, moi, j'y ai pensé aussi. Mais après, c'est parce que j'ai un peu trop regardé des films de narcotrafiquants.
Moi aussi, c'est peut-être pour ça. Ouais.
Et j'ai pensé qu'il n'était pas au courant et qu'on allait le prendre pour se venger de lui.
C'est possible,
puisqu'il est
lié à des affaires de Marseille.
J'y ai vraiment pensé. Je me suis dit, mais... Bon, c'est vrai qu'il est assez dangereux, mais est-ce qu'il a pu organiser ça depuis la prison, organiser un tel déploiement de moyens
pour... Attends, qui continuent de mener leur business avec les portables.
Oui, mais pardon, il a été condamné, excuse-moi, je ne sais pas si tu es au courant, il purgeait une peine de 18 mois.
Ouais.
Alain, il purgeait une peine de 18 mois. Est-ce que tu prends le risque de te faire... de te faire... on va dire, sortir de cette sorte avec le coût humain que ça a en tuant plusieurs agents de la pénitentiaire. Et tu sais très bien qu'après, tu vas prendre perpète pour 18 mois de prison.
Ou alors, tu es menacé en prison aussi. Quoi.
Voilà, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Il y a un truc quelque part.
Mais dans ce cas-là, pardon, si tu enlèves quelqu'un, ce serait donc un enlèvement, hein, finalement, plus qu'une évasion. Mm-hmm. Si tu enlèves quelqu'un pour le buter, pourquoi tu ne le fais pas tout de suite au péage? Pourquoi
C'est ça, c'est pour ça que je te dis, je ne connais pas. C'est que des supputations. Mais je ne suis pas. Voilà, moi, je. Je suis perplexe.
C'est un scénario possible.
Voilà, je suis dans la réflexion.
Non, mais j'ai regardé très récemment une série de narcotrafiquants où justement ils récupéraient comme ça une personne qui était transférée au tribunal juste pour le tuer, en fait. Juste pour le tuer, pour l'asseoir sur une chaise, le torturer et le tuer de ses propres mains. Donc, je veux dire, tout est possible quand tu traînes dans ce milieu. Après, ça coûte très cher, j'imagine, de payer ce genre de personne. Donc, ils étaient 5 ou 6, je crois. J'imagine que ça coûte très cher. Est-ce que lui, il avait les moyens, un, d'organiser ce type d'intervention et un, de payer, ou alors qui paye pour lui ce type d'intervention? Donc, comme c'est pas. Il a quand même un profil assez dangereux, mais c'est pas une tête d'un réseau. Voilà.
Un baron.
Donc, il faut bien un baron qui paye ce type d'intervention. Et peut-être, moi je dis peut-être, que c'est pour se venger de lui. Ou voilà, c'est tout.
Ce matin, Bruno Retailleau parle de mexicanisation de la France.
Ah, c'est exactement ça. Hein. C'est...
Est-ce qu'il a tort? Okay.
Bah, oui.
Je te dis, ce mec-là, Bruno Retailleau, voilà. Mais est-ce que dans son expression, il surjoue? Non, il n'a pas tort, il a raison. On est à une heure de Paris. On est à une heure de Paris. Les mecs sont sortis avec des fusils à pompe et avec des fusils, des fusils mitrailleurs à une heure de Paris, en plein péage.
Mais qui avec les gens qui passent
à 11 heures du matin.
À 11 heures du matin, mais entre nous tous, tout le monde a pris le péage, tout le monde prend le péage. La semaine dernière encore, et on peut se faire, c'est-à-dire que tu peux te faire canarder à 11 heures du matin en allant bosser ou en rentrant chez toi ou X ou pour X ou Y raison. Par des mecs qui viennent défourailler deux véhicules de l'administration pénitentiaire pour sortir un petit con.
Quand j'ai vu les images hier, j'ai pensé, tu sais, c'est vous venez de le dire, et puis les mexicanisations, parce que tout le monde a en tête Escobar, mais en fait, tu sais, Redouane Faïd, il donne des conseils soi-disant pour le tournage de Hit. Et quand il sort de Zonzon, qu'est-ce qu'il fait? Il organise un braquage de fourgon, et là, ils avaient tué une jeune policière. Là, à un moment donné, tu vois ces connexions entre cinéma et télé, et puis réalité, où les mecs, à un moment donné, se disent, tiens, on a vu ça à télé, ça doit être faisable.
C'est irréel.
Et Jouet, elle vient de t'expliquer qu'il y a quelques temps, elle a vu un truc un peu pareil, et là, d'un seul coup, tu le vois qui se fait. Donc, à un moment donné, tu te dis, les gens, la violence pour eux devient même pas un moyen, de violence devient une normalité. Et moi, je le vois, et je l'ai vu, ça se vit partout, tous les jours.
C'est vrai.
Et donc, en fait, à un moment donné, ils se disent, tiens, j'ai vu sa tête, ça doit être faisable. Donc, on s'entraîne un peu, on regarde un peu comment ils se sont mis et tout. Moi, quand j'ai vu la série BRI, le défouraillage qu'il y a à la fin sur le péage.
Oui.
C'est vrai. Un truc de ouf, tu vois. Parce qu'en fait, à un moment, tu te dis, mais quand tu vois comment, quand tu vois comment les mecs, tu sais, les bandits réagissent et défouraillent à tout va alors qu'il y a des gens dans leur voiture, des enfants et tout.
C'est ça.
Mais malheureusement, tu le vois tous les jours. Et tu l'entends.
Bah, je signale que la petite étudiante Sokaina à Marseille, qui étudiait dans sa chambre, sous sa rafale à la Kalachnikov, elle a été tuée. Souviens-toi de ces retraités, si je me souviens bien, qui jouaient aux cartes. Quand il y a eu un règlement de compte aussi à Marseille, il y en a un qui a perdu la vie. Il était juste dans un local à côté. On va en parler avec Jacques. Joël, vas-y, tu veux ajouter un mot
sur la mexicanisation. C'est pas que la violence. Moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est le réseau. Dans la mexicanisation, on a des politiciens, on a des policiers, on a des personnes de l'armée. On a du personnel pénitentiaire. Et donc ça, si on a une mexicanisation de la France, ça c'est très inquiétant au-delà de la violence. Comment tu fais pour faire un tel trafic dans ces réseaux-là, il y a toujours un avocat, il y a toujours des juges, il y a toujours des policiers, il y a toujours des mecs de l'armée. Donc il faut quand même s'inquiéter de ça.
Jacques, bonjour Jacques, bienvenue dans le GG. Retraité, gardien de prison justement.
Voilà, pendant 32 ans, voilà. Bah, déjà, je voudrais apporter mes condoléances à tout ce qui s'est passé. Ça me fait pleurer parce que, bon, je suis gros sur la patate là. Parce que, ouais. Bon, ce qui se passe, c'est que déjà, vous vous posez beaucoup de questions sur le fait qu'ils étaient au courant du trajet. Bah, c'est normal, puisque de toute manière, quand ils sont convoqués devant un juge d'instruction, déjà pour les mettre en instruction, alors que les juges devraient se déplacer en prison, qui sont convoqués à une heure précise, les avocats sont au courant, tout l'extérieur est au courant. Donc après, c'est pas difficile de contacter les trajets. Ah ensuite, il y a plus de fourgons blindés, ça n'existe plus. Moi, j'ai connu les derniers fourgons blindés, il y en a plus. Voilà. Ensuite, pour les transports spéciaux, il y avait quand même la gendarmerie qui possédait des fourgons très spéciaux. Ce sont des camions cellulaires avec plusieurs détenus gardés à l'avant et à l'arrière. Maintenant, il n'y a plus ça. Ouais. Je crois que c'est Joël Lagosseri qui parlait justement du fourgon. Bah, on n'a plus que des fourgons comme ça, des fourgons de livraison. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus de sécurité. Il n'y a plus rien du tout. Voilà. Donc, il y a plein de choses comme ça à voir. Ensuite, quand vous êtes gardien de prison, il y avait des cahiers d'observation dans le temps qui étaient obligatoires. Moi, les derniers, on me les a rendus, on m'a enlevé des pages. Ensuite, on m'a dit, bah, c'est pas un cahier de... qui servait à observer les détenus, vous voyez, leur comportement, avec qui ils parlaient dans les cours de promenade. Bon, tout ça, ça a été foutu à la poubelle. Donc, résultat de l'opération, il n'y a plus d'informations qui passent. Vous n'aviez pas le droit. Moi, je me rappelle, un jour, j'ai téléphoné au greffe pour savoir un détenu qui m'inquiétait par rapport à ses connaissances à l'intérieur de la cour de promenade. On m'a dit, vous n'avez pas à connaître pourquoi il est là. Vous voyez, ce genre de truc. D'ailleurs, vous savez même plus qui vous gardait. Savez même plus qui vous gardait. La dangerosité. Et puis alors la surpopulation pénale, c'est n'importe quoi.
Oui, parce qu'on est à des 120% d'occupation.
Et le gros problème, moi je vais vous le dire, ça a commencé avec l'histoire des prisons de 13 000, puisque à Bapaume, moi je faisais du syndicat, je me suis battu là-dessus quand on m'a fait rentrer du personnel privé. Il était prévu de mettre des chauffeurs de fourgons cellulaires pour les transports privés. Et on s'est battu contre ça. Ça n'a pas été fait, mais c'était limite. C'est-à-dire qu'ils voulaient embaucher, c'est-à-dire qu'il y avait du personnel de surveillance pour accompagner les détenus, mais le chauffeur, ils avaient prévu de prendre des chauffeurs privés. Alors que le chauffeur, normalement, doit être un surveillant, et en plus, les clés, normalement, sont devant. C'est-à-dire que c'est le chef de bord.
C'est-à-dire que dans le fourgon que l'on voit, ceux qui sont devant, c'est-à-dire le conducteur et le passager, c'est le passager qui a les clés à ce moment-là, c'est ça. Et Mohamed Amra, lui...
Normalement, il y a deux personnes. Alors, je ne sais pas comment c'est foutu. Déjà, ce n'est pas cellulaire à l'intérieur.
Ouais.
Normalement, il devait y avoir un surveillant avec eux. Alors, je ne sais pas combien ils étaient dans le fourgon, mais apparemment, est-ce qu'il était tout seul, je ne sais pas. Mais normalement, les deux qui sont devant, c'est eux qui possèdent les clés, des menottes et des chaînes.
C'était cinq en tout. Hein.
Ouais, cinq en tout, avec... alors, on peut imaginer deux devant, un à l'intérieur et deux derrière. Oui, le véhicule d'accompagnement, oui. Mais vous avez vu que quand on voit les images, c'est terrible, hein, mais ça tire par devant et ça tire par derrière aussi, quoi. Ils se sont vraiment retrouvés dans un
feu croisé,
vos collègues.
C'est un guet-apens, une embuscade.
Mais
regardez, quand ça s'est passé à Fred, ils n'ont pas hésité à attaquer à Mirador. Et le détenu, il est sorti. Le détenu, il avait prévu d'aller au quartier d'isolement. Ça s'est passé exactement pareil. Voilà, à l'isolement, ils sont allés chercher à l'isolement, ils sont rentrés par la prison, je crois qu'il y a eu 187 impacts de balles.
Ouais.
De toute manière, ils ont dynamité la porte de derrière à Fresnes. Voilà, quand il y avait l'affaire Sulac, ça a été pareil, l'affaire Sulac. Alors là, par contre, il y avait un directeur qui était mouillé, hein. C'était pareil, c'était hyper combiné. Il y avait quatre voyous qui attendaient dans une BMW au logement de fonction du directeur pour l'embarquer.
Mais voilà. Jacques, on va voir, effectivement, et je vous remercie de ce témoignage en tant qu'ancien gardien de prison. On a un de vos collègues, hein, qui sera avec nous tout à l'heure, il sera en plateau, Johan Carrard, à 10h pour parler justement de ce qu'ils attendent maintenant, les surveillants, les gardiens, les hommes de la pénitentiaire. Merci de ce témoignage, Jacques. Je vous souhaite une bonne journée. Merci d'avoir été avec nous dans les GG, dans les Grandes Gueules. Donc, je vous ai dit, cette affaire de l'attaque du fourgon pénitentiaire, on va la traiter en 3 temps. Le premier temps, là, qu'on vient de faire avec vous, c'était les faits avec les questions. La parole à la pénitentiaire tout à l'heure à 10h et la parole aux magistrats ensuite dans un troisième temps à 11h20. Souvenez-vous ce qu'avaient dit les magistrats marseillais devant le Sénat, où ils s'étaient inquiétés de la puissance, ils avaient dit la puissance financière et la puissance de feu des nargots, des narcotrafiquants.
Des magistrats qui avaient été recadrés par le garde des Sceaux Dupond-Moretti.
Là, j'imagine finalement, que ces magistrats aujourd'hui,
ils ont raison.
Vous savez, ça rappelle la petite émoji qu'on envoie de temps en temps. Vous savez, l'émoji avec les bras écartés. Oui. On va dire, ben voilà, malheureusement, la tragédie, ce qu'on a dit, ils ont une puissance de feu supérieure, ils ont une puissance financière supérieure.
Tu peux nous refaire l'émoji, parce que tu ne savais pas que tu savais faire l'émoji comme ça.
Je la fais bien. Tu sais que c'est moi qui l'ai inspiré, d'ailleurs. C'est moi que tu vois.
Si vous n'avez pas vu sur RMC Story, on va mettre ça sur les réseaux sociaux, parce que Alain Marchal imite les émojis. Il a tous les talents.
Je ne peux en imiter qu'une.
Oui,
il y en a d'autres. Je vois bien faire d'autres, par contre.
Et souvenez-vous aussi de ce témoignage à Marseille de ces jeunes, je crois que c'est Le Monde qui les avait interviewés, les tireurs, 19 ans, 20 ans, 21 ans, ils avaient tué pour 70 000 euros ou 100 000 euros.
Oui, parce que.
Et ça leur faisait ni chaud, ni froid.
Ce qui sera intéressant, c'est de savoir, effectivement, le commando. Comment a-t-il été recruté? Qui sont-ils? Combien sont-ils payés? Parce que. Combien tu es payé pour tuer quelqu'un?
D'où l'intérêt de les arrêter vivants. Parce que moi, je veux bien, tu vois, j'entends des appels à vengeance, j'entends Marion Maréchal dire, ah, il faut tous les buter comme les Kouachi.
Non, okay. Elle a dit mort ou vif.
Voilà, ouais, mais comme les Kouachi, on les a pas arrêtés. Rappelez-vous bien quand ils ont fini. Moi, je dis.
Les Kouachi, ils ont été au devant des tirs.
Oui, mais moi, je pense qu'à un moment donné, il va falloir quand même qu'on les arrête normalement. Je pense que oui, la vengeance, c'est une chose, mais il faut les arrêter pour savoir ce qui s'est passé.
Comment après eux-mêmes, s'ils sont prêts à ça.
Du Salah Abdeslam et qui refuse de parler. Pour qu'on fasse des procès à 20 millions d'euros qui servent à rien, où le mec il dit deux mots.
Donne-moi l'utilité.
Oui, on a arrêté Salah Abdeslam.
Oui, mais
il coûte 500 000 euros. Il coûte 500 000 euros par an et son procès a coûté 20 millions d'euros. À quoi ça sert?
Oui, mais c'était pas que le sien.
Mais pour qu'il reste silencieux. Ça me sert à quoi?
Non, il n'est pas resté silencieux.
Si, il est resté silencieux. En tout cas, au tribunal.
On en reparlera tout à l'heure. Allez, suite des GG dans un instant.
RMC, jusqu'à midi.
Les Grandes Gueules.
Tous les matins, dès 5h, RMC vous réveille en douceur ou accompagne la fin de votre nuit.
C'est Charles Matin.
De l'économie, du sport, du rire et bien sûr, toute l'actualité.
À vos réveils, RMC Charles Matin, du lundi au vendredi, de 5h à 6h30.
Tous les jours, dès 6h, Charles Matin est aussi à la télé sur RMC Story, canal 23 de la TNT.
Ce week-end, à l'Hippodrome d'Auteuil, c'est le Grand Steeplechase de Paris avec RMC. Assistez à la plus spectaculaire des courses d'obstacles de l'année. Prenez vite vos places sur francegallo-live.com. Le Grand Steeplechase de Paris, ce week-end avec RMC. À chaque obstacle, c'est votre cœur qui bondira.
Tout RMC en podcast
sur l'appli RMC. RMC.
Et vous, quel est votre lien avec RMC?
Le 32-16, pour moi, c'est la liberté, quoi. T'entends un mec qui dit un truc à la radio, t'appelles, et 5 minutes après, tu passes à l'antenne et tu le contres, tu argumentes, ça sert bien.
De 5h à minuit, le standard RMC n'attend que vous au 32-16.
RMC, bien plus qu'une radio. Trop pressé aujourd'hui?
Sur RMC, vous avez toute la nuit.
Rediff.
RMC.
9h midi.
Les Grandes Gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les Grandes Gueules sur RMC, RMC Story, discussion, débat, témoignage avec les Grandes Gueules au 32-16, bien sûr. Et je vous ai dit, le fil rouge, c'est l'attaque du fourgon pénitentiaire hier. Et tout à l'heure, à 10h, nous serons avec Johan Carrard. Il est secrétaire général adjoint du syndicat FO Justice, puisqu'il y a journée prison morte. Les syndicats vont être reçus par Éric Dupond-Moretti, comme le disait Joël. C'est quand même hallucinant qu'on ait des transports de détenus dans ce qu'elle appelle les fourgons monoprix, qui sont quasiment les fourgons de livraison. Tu pourras reparler de ça tout à l'heure avec Johan Carrard. En attendant, on est sur le « on s'en fout, on s'en fout pas ».
RMC, les Grandes Gueules.
On s'en fout.
Je peux pas te dire à quel point je m'en fous.
Pardonnez-moi, mais je m'en fous.
Ou on s'en fout pas.
Bonjour Anaïs Sainz.
Bonjour les GG, bonjour à tous. Les JO de Paris ne permettront pas aux propriétaires d'Airbnb de faire fortune. Bah oui, plus les Jeux approchent, plus les prix des locations saisonnières baissent. Est-ce qu'on s'en fout ou pas, Mehdi?
S'en fout pas, juste pour se moquer, c'est tout.
Joël?
S'en fout pas.
Bruno?
Non, s'en fout pas.
Alors, à 2 mois et demi du début des Jeux, le taux d'occupation des logements en location saisonnière à Paris est sensiblement inférieur à celui de l'année dernière à la même période. Bah oui, les touristes ne veulent pas se faire pigeonner, donc ils réservent moins. Les propriétaires qui s'attendaient à faire x10 pendant les Jeux sont donc obligés de baisser leurs tarifs à la nuit. Et pourquoi on s'en fout pas, Mehdi?
Je ricane doucement des gens qui ont acheté ou loué des appartements en prévision des Jeux Olympiques Paris 2024. Je vous salue très chaleureusement, chers amis, et je vous souhaite un agréable été sur la ville de Paris. Voilà.
Un agréable été.
Vous avez voulu, en quelque sorte, profiter du système en louant des appartements à 2000 euros et en les mettant sur Airbnb à 500 euros la nuit. Eh ben, vous, excusez-moi, je peux dire un gros mot, s'il vous plaît?
Non.
Non, s'il
vous plaît. Non, on est mercredi. C'est le jour des enfants.
Ah, vous êtes
qui regardent les GG pour s'éduquer.
Vous êtes fait avoir, cher ami, et j'en suis très heureux que vous soyez fait
pigeonner.
Vous-même pigeonner. Parce que nous, en tant que petits propriétaires que nous sommes, où nous payons des crédits tous les mois, où nous payons des charges qui sont de plus en plus chères, que des petits profiteurs viennent et font tripler, voire quadrupler le marché par rapport à cette période de l'année par rapport à ces Jeux Olympiques, et ben j'en suis très content.
Bruno, Joël.
Non, mais moi j'ai une amie qui a loué, elle a 2 appartements, elle les a loués à des prix tout à fait corrects, tout à fait normaux, elle a pas essayé de faire plus, ils sont déjà loués pour tout l'été. Donc, comme quoi c'est possible de ne pas arnaquer les pauvres touristes qui vont déjà payer un bras pour venir à Paris. En plus, on va leur augmenter le ticket de métro, puisque je crois qu'on avait prévu d'augmenter le ticket de métro pour les touristes. Ça va bien 2 secondes, quoi. Donc, c'est très bien que les prix se régulent. Après, on n'est pas encore au mois de juin.
Moi, j'ai quand même vu des annonces, Joël. Hein. 62 mètres carrés, Montparnasse, 62 mètres carrés. Montparnasse, 1100 euros la nuit.
1100 euros,
non, 1100 euros la nuit. Là. 62 mètres carrés, Montparnasse. À un moment, je veux bien être gentil, mais il faut juste
63 mètres carrés à Nières, 700 euros la nuit suivante.
Donc ça veut dire que les pigeons ont refusé de se faire pigeonner. Mais
c'est exactement ça.
Eh oui.
Les GG MeToo dans le cinéma. Raphaël Quenard répond à la rumeur. L'acteur figure dans la liste des 10 noms prétendument accusés de violences sexuelles qui circulent sur les réseaux sociaux. Eh bien, il a répondu hier dans Clic sur Canal+. Écoutez.
Il y a un sentiment d'impuissance et de colère qui est généré par le fait d'être associé à quelque chose dont on ne sait pas de quoi il retourne, qui n'est étayé par aucun fait, aucune accusation de quelque valeur que ce soit. Moi déjà, je dors comme un loir sur mes 2 oreilles parce que mon esprit est au clair. S'informer sur Twitter, pour moi, c'est déjà exprimer le désir inconscient de faire de son cerveau une marmite de merde.
Voilà, est-ce qu'on s'en fout pas, Bruno?
Non, on s'en fout pas.
Joël?
On s'en fout.
Mehdi?
Je m'en bats les reins.
Ah.
Alors Bruno, tout seul.
Alors moi, ce qu'il dit, c'est bien. Je lui souhaite réellement de dormir sur ses 2 oreilles jusqu'au bout, parce qu'on en a d'autres avant qui nous ont dit la même chose et qui ont pris une cartouche. Donc je lui souhaite vraiment qu'il n'ait rien à se reprocher. Moi, je connais des gens qui...
On connaît que la méthode est quand même terrible de balancer les noms.
Non, mais c'est une liste. C'est ça. Pardon, c'est le macartisme.
Hein. Ah bah oui, complètement.
Souvenez-vous, il y avait une liste aussi des 10, pareil, hein, qui circulait à Hollywood. On reprochait à l'époque à ces cinéastes ou ces acteurs d'être des agents de l'URSS, hein, des agents communistes. On est exactement dans le macartisme. Ah. C'est dégueulasse.
Et des mecs, si ces mecs-là, après, il n'y a rien. Et ils sont innocents.
Le mal est fait.
Le mal. Il sera toujours fait. Il y aura toujours 400 titres de journaux qui en parlent d'eux, des éditions matinales qui parlent d'eux. Je trouve que c'est dégueulasse.
Non, moi je trouve que le risque il est ailleurs. C'est qu'à force
j'ai
de sortir
pas envie
des
d'en
noms,
parler parce que je leur donne encore de la notoriété.
Moi je trouve que la force de sortir des noms où il y a rien derrière, s'il y a rien derrière, bah, malheureusement les prochaines qui se feront agresser,
ouais, mais c'est terrible,
et qui diront des choses.
C'est déjà arrivé ça, Bruno, des noms.
Non mais Bruno,
ne pourront pas.
Tu dis s'il y a rien derrière. Il y a rien derrière. Puisqu'il n'y a pas de plainte, il y a pas d'enquête. On balance des noms et tu dis oh là là, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'ils ont fait.
Et moi je trouve, pardon,
le mal potentiel.
Rien. Je vous dis s'il y a rien derrière.
Oui, mais c'est pas s'il y a rien.
Il y en a d'autres à qui on disait il y avait rien. Enfin moi,
les
PPDA, les Depardieu, c'est quand même pas d'aujourd'hui.
Ça reposait sur des témoignages.
Non, mais pardon.
plainte.
Oui, à l'époque, il n'y avait pas de plainte. Depardieu et 20 ans, 30 ans, il n'y avait pas de plainte.
Non, mais il y a eu des témoignages de gens qui ont parlé. Alors peut-être qu'on ne les a pas écoutés, mais il y avait des gens qui parlaient, qui donnaient des faits. Enfin, on enfin, ne peut pas rentrer dans cette ère du soupçon, de la rumeur et de la calomnie. Et je trouve, moi, que Mediapart a tardé à démentir que ce n'était pas eux. Parce qu'au début, on nous a expliqué que cette liste, c'était Mediapart. Et Mediapart a attendu quand même plusieurs jours avant de dire non, ce n'est pas nous. Ben, je m'interroge. Pourquoi Mediapart n'a pas tout de suite dit non, ce n'est pas nous et fait taire et tuer cette rumeur?
Ils avaient une enquête en fait. Ils avaient déjà une enquête sur le truc. Après, peut-être ils ont rien trouvé, mais ils avaient déjà fait.
Voilà, peut-être que
non,
Olivier,
ils nous ont dit non, non,
non, peut-être
que
Olivier.
Peut-être
que Olivier, entre. Regarde, je ne vais pas me faire l'avocat du diable en défendant Mediapart.
T'en foutais.
Oui, mais à un moment, il ne faut pas tout dire et son contraire. Je suis désolé, mais peut-être que Mediapart, quand ils ont reçu cette information, en tant que journaliste, ils ont juste. Ils ont juste fait leurs recherches et ils ont vu comme quoi il n'y avait pas de dossier. Donc voilà, il faut pas attaquer Mediapart.
Le problème
ne vient pas de Mediapart ni de voilà, le problème vient que des gens mettent des noms comme ça.
Joël, mais moi je m'en fous. Je respecte ma parole. Bon, mais j'ai pas.
Excuse-moi.
La roue à faire tourner.
La roue.
Anaïs est en train de s'échauffer. C'est elle qui va faire tourner la roue tout à l'heure. La RMC, la roue multicash avec 20 000 euros. En fait, ça va partir de 100 euros jusqu'à 20 000 euros. Alors. Il y a du 10 000 euros à gagner, du 100 euros, du 1000, du 500, du 100,
du 2000,
du 2,50 €. Non. Franchement, il y a un bon coup à jouer tout à l'heure. Mais là, vous venez d'entendre l'alerte.
Un bon signe.
Vous avez. Non, il n'y a que de l'argent à gagner. Vous avez 5 minutes devant vous pour m'envoyer roue par SMS au 732-16.
Et roue.
Roue par SMS.
R-O-U-E.
Le tout marche.
R-O-U-E. Voilà.
Même si tu écris mal.
Voilà. R-O-U-E. Par SMS au 732-16. Et vous êtes tiré au sort. Et tout à l'heure, Anaïs fait tourner la roue dans les GG, dans les grandes gueules. Allez, un petit dernier.
Bon, les GG. Marie Toussaint a-t-elle dérapé? Marie Toussaint, la tête de liste écologiste, qui accuse le gouvernement, je cite, d'empoisonner les enfants par des produits toxiques. Écoutez, c'était lundi soir dans C'est à vous sur France 5.
Jusqu'à 19 clusters pédiatriques en France de cancers liés à ces produits toxiques.
Pas liés à ces produits toxiques.
Ah bah si, liés aux produits toxiques. En tout cas, on a des autorités qui refusent d'aller chercher les causes. Et moi, je dénonce un empoisonnement massif qui est mené de la part de ce gouvernement.
Massif, des propos qui ont évidemment révulsé les professionnels de santé, dont notre GG, Jérôme Marty, médecin en première ligne. Mon cher.
Oui, vous précisez quand même que les pédiatres ont dit que c'était complètement bidon ce qu'elle racontait.
C'est surtout complètement con.
C'est ce que je viens de dire.
Aussi, elle dit on refuse d'aller chercher les causes. Bidon si on n'a pas les causes.
Ouais. Comment on fait pour savoir que c'est le gouvernement?
Mais dis, tu t'en fous ou pas?
Royalement.
Bruno?
Ah non, je m'en fous pas du tout.
Et Joël?
Je m'en fous pas.
Bruno?
Non, mais en fait, elle a réussi. Parce que vous parlez d'elle. Parce que
mal.
Mais tu sais, de toute façon.
C'est pas grave.
Quelqu'un a toujours dit que c'est en mal ou en bien. C'est pas grave, faut parler de soi. Et en fait, elle, ce qui se fait, c'est qu'aujourd'hui, sa campagne, mais c'est comme Bellamy quand il se retrouve en face de Boyard devant Sciences Po. En fait, c'est des gens, ils sont tellement dans les fins fonds que tout le monde se tape d'eux, qu'aujourd'hui, ils sortent de la merde et d'un seul coup, bam, ça monte. Et le vrai problème qu'on a aujourd'hui avec l'écologie,
c'est qu'elle va remonter en faisant des fake news, en propageant des fake news.
Mais en fait, moi, je trouve qu'aujourd'hui, l'écologie où on aurait besoin d'études, et il y en a des études scientifiques à sortir et un peu à montrer vraiment les choses, où Macron, à un moment donné, se pissait sur l'écologie, puis là, aujourd'hui, il va voir des éoliennes, donc à un moment donné, il revient quand même sur le sujet, mais à un moment donné, on a un vrai sujet. Et là, aujourd'hui, l'écologie, elle ne vient que de scandales, de trucs débiles à sortir sur le barbecue, sur tout ça. À un moment donné, les gens, ils vont s'en déconnecter de l'écologie, puis ça sera pire.
On peut faire l'écologie sans les verts.
Ah, tu t'en fous, Joël.
Ouais, t'as raison, je m'en fous.
Non, mais en fait, tous ces politiques qui balancent des fake news comme s'ils étaient bidule 537 sur Twitter. Enfin, moi, je suis effarée. Pour moi, un politicien, c'est aussi un technicien. C'est quelqu'un qui est dans la précision, dans les mesures. Et aujourd'hui, il y a plus que de la com. Il y a plus que j'ai envie de dire ça. Je dis ça. Que de la gauche à la droite, tu retrouves. Et les techniciens, en fait, ils sont étouffés par ces gens qui sont dans la fake news, dans l'émotionnel, dans le démago, dans le populo. Enfin, j'en peux plus.
Parce que là, c'est plutôt la politique de la peur.
Oui.
Dans un instant, avec nous, deuxième partie dans les GG, dans les grandes gueules, de l'attaque du fourgon pénitentiaire avec Johan Carrard. Il est agent de la pénitentiaire, justement. Il est surveillant. Il va venir nous parler de ses collègues, des transports de détenus et de ce qu'ils attendent de la rencontre avec le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti.
RMC, jusqu'à midi,
les grandes gueules.
Bonjour, c'est Apolline.
RMC, Apolline Matin.
Vous voulez une matinale où on vous parle de vos préoccupations, où on vous parle de pouvoir d'achat, de sécurité, d'économie? Vous voulez qu'on vous accompagne, vous voulez qu'on vous écoute, vous voulez des réponses sans concession à toutes les questions que vous vous posez, et puis vous voulez vous marrer? Ben, ne cherchez plus. On est là avec toute l'équipe, avec Charles, avec Manu, avec Nicolas, avec Amélie, avec Arnaud, et avec vous au 32-16. Alors à tout à l'heure, 6h30, 9h pour Apolline Matin.
RMC.fr et appli RMC.
RMC en direct, partout, tout le temps.
RMC Escrime. De demain à dimanche, c'est le Challenge Monal. La Coupe du Monde d'épée hommes accueille les stars mondiales de l'escrime à Saint-Maur-des-Fossés. Encouragez le champion olympique Romain Canon et ses partenaires de l'équipe de France pour la dernière épreuve sélective avant les Jeux Olympiques. Info et résa sur ffescrime.fr. Le Challenge Monal. De demain à dimanche avec RMC.
RMC au 32-16, 45 centimes la minute.
Ou par SMS au 732-16, 75 centimes par envoi, plus prix du SMS.
En ce moment, envoyez roue par SMS au 732-16 et si vous êtes sélectionné, gagnez 3000 euros sur RMC.
Et pourquoi envoyer roue et pas argent par exemple?
Parce que si vous êtes joueur, vous pouvez remettre vos gains en jeu, faire tourner la roue RMC et gagner 20 000 euros.
Un gagnant par jour.
Toute cette semaine,
RMC vous rince. Pour jouer, écoutez bien RMC. Dès que vous entendez,
envoyez roue par SMS au 732-16.
75 centimes par SMS, 3 SMS maxi.
Roue au 732-16.
Sur RMC, la roue finit toujours par tourner. Sur RMC, la nuit, RMC, c'est le meilleur de la journée. Rediff.
RMC, 9h midi, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules en direct sur RMC, RMC Story. Aujourd'hui, nos trois GG, Bruno Poncet, cheminot et syndicaliste, Joël Dagosséry qui est coach de vie. Nous sommes avec Mehdi Guézard qui est patron de PME. On parle beaucoup de la situation en Nouvelle-Calédonie qui dégénère avec des morts là-bas aussi, un climat de guerre civile. Si vous connaissez la Nouvelle-Calédonie, si vous y habitez, si vous avez de la famille là-bas, on en parlera quand même tout à l'heure à 11h et on sera en ligne avec Nouméa, avec un de nos compatriotes qui vit là-bas, qui est médecin et qui va nous raconter son quotidien. La Nouvelle-Calédonie, que s'y passe-t-il? Guerre civile en Nouvelle-Calédonie, ce sera à 11h. La magistrate Béatrice Brugère sera avec nous tout à l'heure à 11h20 pour parler de ce qu'on a vu hier, de ce à quoi on a assisté, de l'attaque du fourgon pénitentiaire. Des magistrats qui ne cessent de tirer le signal d'alarme, disant il faut nous donner les moyens de gagner la guerre contre les narcotrafiquants. Est-ce que la France est en train de basculer en narco-État? Je ne sais plus qui disait, ça rappelle le Mexique, en fait, à ce qu'on voit en Amérique du Sud, ce qui s'est passé hier au péage. Justement, on va y revenir maintenant avec notre invité qui fait partie de la pénitentiaire.
RMC, l'invité des grandes gueules.
Et Johan Carrard, que je salue, bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire national adjoint du syndicat FO Justice. Vous allez tout à l'heure rencontrer le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti. On va écouter justement le ministre de la Justice.
Nous avons rencontré la femme de l'une des victimes. Son mari aurait dû rentrer à la maison à cette heure-ci. Après avoir effectué sa mission. Et après avoir fait son jogging. Il est mort. Abattu comme un chien par des hommes pour qui la vie ne pèse rien.
Ouais. Abattu comme des chiens, c'est ce qui est arrivé à vos collègues, Johan?
Ah, clairement, enfin voilà, ils ont fait face à une opération commando. C'était une opération vraiment millimétrée pour le coup. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, les personnels pénitentiaires, quand on sort à l'extérieur, quand on fait ces missions armées, on est doté que de 9 mm. Donc ça reste du petit calibre. Et on le voit sur les images. Quand on voit ce commando armé avec des armes de guerre, malheureusement, l'issue ne pouvait être que fatale.
D'autant plus que les attaquants n'ont pas laissé une seule chance à vos collègues de se défendre. Ils arrivent, ils tirent tout de suite.
Clairement, il n'y a même pas eu de sommation, de tentative d'essayer de dissuader. Non, ils sont venus, ils ont abattu. Voilà, ils ont été abattus comme des chiens. Clairement, c'est.
Avant de continuer de parler de cette attaque, quand même, une question. Vous avez trois collègues qui ont été blessés. Avez-vous des nouvelles de ce matin ?
Oui, alors visiblement, donc pour deux des trois collègues, la situation s'est améliorée, mais nous avons toujours en fait des réserves sur le troisième collègue qui, pour qui les jours sont toujours en jeu.
Monsieur Carrard, juste une question. Vous dites comme quoi les agents de la pénitentiaire ont que des 9 mm, donc ils n'ont que des pistolets. Moi, il y a une chose que je comprends pas. Comment, quand on transporte de l'argent, les mecs ont des fusils à pompe et des fusils mitrailleurs, et vous qui transportez des choses, des personnes dangereuses, on ne vous donne que des 9 mm. Excusez-moi, ça veut dire qu'on est en train. Là, ce que vous êtes en train de me dire, ça veut dire que pour certaines élites de l'État, on arme mieux des gens pour protéger de l'argent que pour protéger des personnes. En fait, c'est ça.
Je vous dirais même plus, la situation est encore plus dramatique. Je vais vous donner un peu les éléments contextuels. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette mission d'extraction judiciaire, c'est une mission qui est vraiment naissante chez nous. C'est une mission qui était effectuée par la police et la gendarmerie avant et qu'on a repris que très récemment.
Mais c'est très récent.
Effectivement, il y a cette problématique d'armement qui nous a été confiée, on va dire, très récemment. Mais qui plus est, encore à aujourd'hui, nous avons des escortes qui sont faites notamment quand on accompagne un détenu à l'hôpital, qui se fait encore non armé. Ça, il faut le savoir. Donc pour nous,
on escorter des dangereux criminels sans armes.
Il y a quelque chose, il y a plein de choses qui ne vont pas. Par exemple, la camionnette. Tout à l'heure, Joël nous disait, ça ressemble à la camionnette de celui qui vient de me livrer mes courses le matin. Donc il n'y a aucune protection.
Inévitablement, il y a une problématique structurelle. Et ça, on le dit sur le niveau d'escorte, sur les équipements qui sont associés. Après, sur notamment le